VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Début de la grève des médecins en République démocratique du Congo, ils réclament de meilleures conditions salariales. À Madagascar, des milliers de manifestants à nouveau dans la rue, dans la capitale, pour protester contre les nouvelles lois électorales. Le président français Emmanuel Macron a débuté une visite d'État de 3 jours à Washington. Et dans nos dossiers du jour, remous au Tchad après la sortie de l'Église sur la révision de la Constitution.
Quand un chef religieux prononce un message au nom d'un groupe, il doit dire la vérité.
Mais aussi, nous reviendrons sur le clap de fin pour la 11e édition du FEMUA.
Cette initiative, vraiment, je ne cesserai jamais d'applaudir Gaou Productions et d'encourager fortement Asalfo et ses collègues parce que ce qu'ils font, c'est fort.
Dans la Minute Éco, les transferts d'argent vers les pays pauvres ont atteint un record en 2017. Et le patron du football congolais, Constant Omari, revient sur sa garde à vue dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, à l'appel du syndicat national des médecins, un mouvement de grève a repris à Kinshasa. Les médecins congolais observent une grève dans tous les hôpitaux publics du pays pour protester contre le non-respect par le gouvernement des accords signés visant à améliorer leurs conditions salariales. Précision de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À l'hôpital général de référence de Kinshasa, médecins et infirmiers sont présents avec leur tenue. Mais le service est strictement limité, que le gouvernement règle très vite cette histoire et paye aux médecins ce qu'il leur a promis. Sinon, nous allons mourir faute de prise en charge, nous a lancé désespéré un malade. À l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, dans la commune de Njili, mais comme au centre mère et enfant de Barumbu, le personnel soignant est présent. Les médecins font la ronde pour visiter les malades et les urgences sont assurées. Interrogé, un médecin nous a affirmé que le mouvement peu suivi ce lundi, se radicalisera progressivement. Pour rappel, le syndicat national des médecins a décidé d'un mouvement de grève dans tous les hôpitaux publics de la RDC. Il reproche au gouvernement de n'avoir pas amélioré les conditions salariales des médecins. Le CINAMED promet de durcir le mouvement dans une semaine si le gouvernement n'honore toujours pas ses engagements. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et la République démocratique du Congo sera au menu d'un sommet des chefs d'État de la SADC prévu à Luanda demain mardi. La communauté d'Afrique australe se penchera sur le processus électoral et la situation sécuritaire dans le pays. En Angola, le président João Lourenço a démis de ses fonctions le chef d'état-major de son armée, le général Geraldo Sachipando Nuanda, un mois après sa mise en cause par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Dans un communiqué, le président angolais a annoncé sans commentaire son remplacement par le général Antonio Egidio de Sousa Santos. En Centrafrique, des affrontements ont opposé dans le sud-ouest du pays un groupe armé récemment créé et des casques bleus de la MINUSCA. 4 personnes ont trouvé la mort, dont un chef du groupe Siriri, a précisé une source sécuritaire. Ce groupe a vu le jour fin 2017 dans le sud-ouest de la Centrafrique, jusque-là épargné par les violences. L'opposition malgache continue la mobilisation contre une nouvelle loi électorale et la mort de 2 manifestants samedi. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans la capitale, Antananarivo. Abdourahmane Dia.
L'objectif de la manifestation de ce lundi était de dénoncer la répression meurtrière du rassemblement de samedi et dénoncer la nouvelle loi électorale. Selon l'opposition, cette loi vise à écarter les principaux opposants, comme l'ancien président Marc Ravalomanane, à 7 mois des élections. Comme hier, militaires et policiers en armes ont interdit, dès les premières heures de la matinée, les accès à la place du 13 mai avant de se retirer. C'est pour éviter des affrontements violents qui pourraient entraîner des grands dommages entre Malgaches que nous avons choisi de quitter la place, a expliqué le ministre de la Défense. De retour d'un bref séjour hors du pays, le chef de l'État, Rajonam Piam, a dénoncé hier soir un coup d'État. Lors d'une allocution à la télévision et sur les réseaux sociaux, il a appelé tous les Malgaches au calme. Il a aussi mis en garde ceux qu'il appelle les fauteurs de troubles et ceux qui incitent à la haine. L'un des principaux chefs de l'opposition, l'ancien président André Rajoel, devrait s'exprimer sur la situation dans la soirée ce lundi.
Au Mali, 25 détenus se sont évadés de la maison d'arrêt Douélé-Sébougou, à 100 km sud de Bamako, vers 7h du matin. Deux gardiens de prison, dont une femme, ont été blessés par les détenus et qui lançaient des pierres. Les forces de sécurité de la localité sont activement à la recherche des évadés. Et la Cour pénale internationale, la CPI, a rejeté à la majorité des juges pour une énième fois la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Une requête de sa défense évoquait des raisons de santé, mais sur le site internet de la CPI, on peut y voir que, conformément au rapport médical mis à jour, la Chambre est convaincue que la santé de M. Gbagbo est stable et qu'il reçoit un traitement optimal pour son état de santé actuel et son âge. Le secrétaire américain adjoint par intérim aux affaires africaines, Donald Yamamoto, effectue une visite rare en Érythrée du 22 au 24 avril. Il ira ensuite à Djibouti et en Éthiopie. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Donald Yamamoto, secrétaire adjoint intérimaire aux affaires africaines, doit rencontrer les responsables érythréens. Au menu, des consultations avec les autorités d'Asmara, une rencontre avec la communauté diplomatique et un tour à l'ambassade américaine. Cette visite de M. Yamamoto intervient à un moment où l'Érythrée cherche un soutien pour lever les sanctions onusiennes, notamment l'embargo sur les armes décrété en 2009. L'ONU reproche à l'Érythrée son soutien présumé aux groupes armés en Somalie voisine. Après l'étape érythréenne, Donald Yamamoto se rendra à Djibouti, où il va diriger le forum États-Unis-Djibouti du 24 au 25 avril. Ce dialogue annuel porte sur les questions politiques, économiques, l'aide et la coopération de sécurité. La délégation américaine va terminer sa tournée en Éthiopie le 26 avril. Durant cette dernière étape, les discussions porteront sur des préoccupations et des sujets d'intérêt commun, après le communiqué du département d'État américain.
Et l'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet. C'est l'année du 100e anniversaire de la naissance du premier chef d'État noir sud-africain. Qui de mieux pour représenter l'héritage de Madiba que celui qui, à nos yeux, s'est vu passer le témoin en devenant président de son pays, a déclaré le président de la Fondation Mandela. Et l'UNESCO a décidé de remettre son prix mondial de la liberté de la presse à un photographe égyptien, Mahmoud Abou Zeid, emprisonné depuis 2013. Connu également sous le nom de Chokan, il avait été arrêté alors qu'il couvrait la dispersion d'un sit-in anti-gouvernemental par les forces de l'ordre où des centaines de manifestants avaient trouvé la mort. Le photographe est poursuivi pour de multiples chefs d'accusation, dont celui d'appartenance aux Frères musulmans, mouvement illégal aujourd'hui en Égypte, et de possession d'armes à feu et de meurtre. Il risque la peine de mort.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, une camionnette a renversé aujourd'hui une dizaine de piétons dans le centre de Toronto et au moins 8 à 10 personnes ont été blessées. La police a indiqué sur Twitter que la collision a eu lieu sans préciser s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident. Une fourgonnette blanche a renversé des passants au nord du centre-ville de Toronto et selon les médias locaux, le véhicule serait en fuite. Le président français Emmanuel Macron est en visite d'État à Washington. L'amitié entre lui et son homologue américain va être mise à rude épreuve. Les deux hommes discuteront de plusieurs sujets de discorde, en priorité l'accord sur le nucléaire iranien. Des précisions de John Lyndon.
Cette visite d'État commence ce soir par un dîner. En préambule, le président français a énuméré dimanche sur Fox News ses arguments pour convaincre le président américain. Le sujet le plus brûlant concerne l'accord nucléaire iranien signé en 2015. Donald Trump a menacé de se retirer. Autre différent, la stratégie à tenir en Syrie après la victoire contre le groupe État islamique. Mais le président Trump veut retirer ses troupes de la Syrie. Pendant sa visite, M. Macron se fera aussi l'avocat de l'Europe sur l'application des taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium en suspens jusqu'au 1er mai. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron espère que ses bonnes relations avec Donald Trump permettront au moins d'infléchir les positions du chef de l'exécutif américain. Les discussions diplomatiques commencent demain avec des entretiens à la Maison-Blanche, puis un dîner d'État. Mercredi, M. Macron s'exprimera devant les membres du Congrès avant de rencontrer des étudiants de l'Université George Washington.
Et Salah Abdeslam a été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat à caractère terroriste en raison de sa participation à une fusillade contre des policiers survenus à Bruxelles en 2016. Il aurait joué également un rôle central dans la préparation des attentats du 13 novembre, un des plus meurtriers jamais commis en France, qui a fait 130 morts et des centaines de blessés. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Les transferts d'argent vers les pays pauvres ont atteint un niveau record en 2017 après deux années de baisse consécutive. Le montant total est de 466 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne a enregistré plus de 11%. Le Nigeria et l'Égypte viennent en tête avec respectivement 22 milliards et 20 milliards. Cet argent constitue une source cruciale de revenus pour les pays pauvres. D'après la Banque mondiale, ces transferts devraient s'accroître en 2018 pour atteindre 485 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne demeure la région où envoyer son argent est le plus coûteux. Le déficit commercial de l'Algérie s'est réduit de plus de 83% au premier trimestre 2018. Il représente 490 millions de dollars. En 2017, durant la même période, il avoisinait 3 milliards de dollars. La remontée des prix des hydrocarbures et la politique de maîtrise des importations expliquent cette réduction sensible du déficit de la balance commerciale. Les hydrocarbures représentent plus de 90% des exportations algériennes.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Constant Omari contre-attaque.
Et oui, dans un communiqué envoyé à VOA Afrique, le patron du foot congolais revient sur sa garde à vue et les allégations de corruption à son encontre. La vérité est têtue, insiste le président de la FECOFA. Dans ce court texte reçu par VOA, Constant Omari s'en prend à ceux qui ont voulu le déstabiliser. Il défend son honneur et réaffirme, encore une fois, l'homme moderne n'a jamais touché ni détourné le prétendu million de dollars parce que la fédération ne les a jamais reçus. C'est ce que déclare Constant Omari qui enfonce le clou et tacle les autorités congolaises, en particulier l'actuel ministre des Sports. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a jamais décaissé le moindre franc pour les matchs de la Tanzanie et du Nigeria que le ministre des Sports, Papi Nyong'o, explique au peuple qui avait perçu ce million de dollars. Pour en savoir plus sur cette affaire, Constant Omari, rendez-vous sur notre site voafrique.com.
Et les bouillants supporters d'Al Ahly suspendent leur activité en Égypte.
Les ultras d'Al Ahly, groupe de supporters du plus célèbre club d'Égypte, mais considéré comme une organisation illégale par les autorités, eh bien ils annoncent la suspension sine die de leurs activités. Aucune précision n'a été apportée sur le motif de cette décision qui intervient un mois après des violences entre certains de leurs membres et la police à la suite d'un match au Caire entre Al Ahly et le club du CF Mounana dans le cadre des qualifications pour la Ligue des Champions.
Veillée d'armes à 24 heures de la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Et deux équipes surprises à ce stade de la compétition qui s'affrontent mardi, Liverpool et l'AS Rome, un remake de la finale de 84 remportée par Liverpool à Rome. On rappelle que Liverpool n'est plus arrivé aussi loin dans la compétition depuis 2008. Les Reds ont éliminé Manchester City en quart de finale et sont la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts. Il faudra se méfier au stade olympique de Rome de cette équipe de l'AS Roma qui a éliminé Barcelone au tour précédent.
Et enfin, la NBA, la suite des playoffs du championnat de basket nord-américain.
L'inusable Manu Ginobili a offert hier à San Antonio une victoire quasiment inespérée face à Golden State 103-90, tandis que LeBron James a sorti Cleveland d'un très mauvais pas à Indianapolis, victoire 104-100. Cleveland et Indiana sont désormais à égalité, deux victoires partout et le prochain match, le numéro 5, ce sera dans l'Ohio. Après avoir gagné les deux premiers matchs à domicile, Toronto a perdu à Washington 98-106, même scénario pour les Celtics qui a concédé un deuxième revers de suite en déplacement 102-104 à Milwaukee.
Merci Nicolas Pinault.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Raissa Girondin avec vous. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, les évêques expriment leur inquiétude face à la révision de la Constitution en cours devant l'Assemblée nationale. Pour l'Église catholique, ce processus envisagé par voie parlementaire, sans consulter le peuple, risque de fausser les règles du jeu démocratique, d'autant que le projet divise profondément les Tchadiens. Le gouvernement a qualifié les évêques du Tchad de menteurs, nous rapporte N'Djamena, le correspondant de VOA Afrique, André Komadjinkar.
Quand un chef religieux prononce un message au nom d'un groupe, il doit dire la vérité.
Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire général du gouvernement, traitant les évêques du Tchad de menteurs. Pour elle, le processus de réforme a été lancé depuis 2016 et que toutes les couches sociopolitiques, y compris les religieux, ont été consultées. Dans un ton peu conciliant, elle accuse vertement l'Église catholique du Tchad de faire une lecture erronée de la Constitution de 1996 en exigeant le référendum dans ce processus de révision constitutionnelle.
Nous exprimons notre stupéfaction et notre indignation face à cette déclaration infondée qui non seulement fait une lecture complètement erronée de la Constitution, mais jette les germes d'une grave division des Tchadiens. Le président de la République est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum.
Les évêques du Tchad sont dans leur rôle, estime le président du conseil exécutif des œuvres et missions de l'église évangélique Maranatha, l'évêque Dr Sitak Yubatina Beni.
S'il y a quelque chose qui porte en elle-même les germes de division des Tchadiens de demain, c'est ce projet de constitution et surtout ceux qui sont derrière ce projet de constitution qui sont dangereux. Et c'est pour ça qu'en tant qu'évêque, en tant que pasteur, nous jouons notre rôle de sentinelle pour dire faites attention. Donc je ne pense pas vraiment que les évêques puissent faire une lecture erronée. Nous sommes stupéfaits de savoir que là où nous allons est très dangereux et je pense que le président de la République est en train de remettre en cause tout ce qu'il a pu construire depuis 1990 à travers cette constitution.
Pour le comité chargé des affaires d'urgence de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, vouloir modifier la constitution par voie parlementaire sans consulter le peuple est un coup d'État constitutionnel. Agar Mahamat Abdelkerim, l'un des membres du dit comité, invite les autres confessions religieuses à suivre l'exemple des évêques du Tchad.
Nous sommes en face d'un moment décisif de l'histoire de notre pays. Tous ceux qui ont gardé le silence seront considérés comme complices du gouvernement. Et la conférence épiscopale nous a prouvé qu'elle est avec le peuple. Et le Conseil supérieur des affaires islamiques et l'autre composante religieuse doivent également emboîter les pas.
Max Kemkoui, président national de l'Union démocratique pour le développement et le progrès, invite tous les Tchadiens à dire non à cette nouvelle constitution.
Il est temps que le peuple tchadien dans son ensemble se réveille pour dire non au terrorisme politicien d'Idriss Déby Itno, non à la monarchisation du Tchad, non à l'accaparement du pouvoir par une famille, non au régime présidentiel intégral.
Entre-temps, chacun va de son commentaire. Qui dit la vérité entre le régime au pouvoir et les évêques du Tchad s'interrogent certains internautes tchadiens qui parviennent à contourner la censure des réseaux sociaux imposée par le gouvernement tchadien depuis le 28 mars dernier. André Kodmadingar Ndjamelan, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et nous poursuivons à Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Elle subit une pénurie d'eau sans précédent depuis le début du mois d'avril. La situation est qualifiée de catastrophique pour le 1,5 million d'habitants de cette métropole du centre du pays. La cause, le lac de barrage qui fournit 70% de l'eau de la ville est vide. La faute à la sécheresse inédite que traverse cette région, mais aussi aux carrières de sable qui ont détourné une partie des eaux irriguant le barrage de la Louka. Situé à 20 km de la ville. Reportage sur place de notre correspondant Siriki Barrault.
Plus une goutte d'eau ne s'écoule des robinets des populations de Bouaké. Pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir, elle est impropre à la consommation. Le barrage d'eau de la Louka, situé à l'ouest de la ville, a tari laissant place à un sol desséché et boueux par endroits. Kwadio Sanson en est le responsable. Il nous explique les facteurs qui ont conduit à une pareille situation.
Le phénomène qui pourrait expliquer cela, il y a le réchauffement climatique d'abord, et puis il y a la pluviométrie qui, depuis 2015, a vraiment baissé et nous avons ressenti ça profondément en 2016.
La nature est certes mise en cause, mais l'activité humaine a aussi contribué au dessèchement du barrage de la Louka. Un barrage qui dessert la ville de Bouaké, mais également plusieurs localités environnantes, comme nous l'indique Kwadio Sanson.
On a constaté qu'il y avait aussi l'impact de l'homme, surtout au niveau des carrières de sable. Parce qu'il faut dire que dans la région, il y a beaucoup de carrières de sable et l'exploitation de ces carrières-là a causé un énorme préjudice au lac. lac, parce que là où l'eau devait s'écouler de façon naturelle pour venir alimenter les barrages, on a constaté qu'il y avait des fossés qui avaient été créés par ces exploitants des carrières.
Des camions citernes sillonnent la ville à l'effet de ravitailler en eau les populations. Malgré cela, la situation est de plus en plus intenable pour ces derniers. La quête d'eau à Boaké ressemble à une course au trésor. Dans presque tous les quartiers, le spectacle est le même. Femmes, jeunes et vieux, tous, bassines et bidons en main, à pied ou sur des tricycles, écument la ville à la recherche de points d'eau afin de s'approvisionner. Certains, comme cette jeune lycéenne, manquent parfois les cours parce que chercher l'eau est devenu la priorité.
Franchement, cette affaire d'eau là, c'est agaçant, on souffre, on a cours, mais tu es obligé de te lever à 3 heures, aller chercher l'eau. Et puis l'eau de pluie, souvent c'est sale.
La situation ne s'améliore pas, se plaint cette dame répondant au nom de Touré Aliment, qui comme tous les autres, crie son ras-le-bol.
Sincèrement dit, on a besoin de l'eau, il n'y a pas l'eau. On souffre trop, même y a l'eau à boire, il n'y en a pas.
Le gouvernement ivoirien, qui dès le début de ce manque a réagi avec l'envoi des citernes pour soulager les Boakois, continue de travailler afin de sortir de cette impasse. Les travaux pour la réalisation de plusieurs forages ont démarré le 17 avril dernier. À terme, l'État prévoit de relier le barrage de la Loka au fleuve Bandama, un fleuve qui prend sa source dans le nord du pays et qui traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Et toujours en Côte d'Ivoire, clap de fin hier dimanche à Abidjan sur la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, organisé chaque année par le groupe musical Magic System. L'événement a été placé cette année sous le signe de l'immigration clandestine. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, nous propose ce reportage.
Paris, une fois de plus réussi pour les organisateurs du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Pendant les 6 jours qu'a duré le festival, les Abidjanais ont massivement répondu présent et la dizaine d'artistes nationaux et internationaux a assuré le spectacle. Le Congolais Lokua Kanza, heureux d'avoir pris part à ce FEMUA 2018.
Alors quand on a des artistes comme Asalfo qui, eux, pensent aux autres, louons-le. Donnons-lui la force de continuer parce que dans quelques années, quand on sera plus là, les enfants qui vont être grands diront « Ah, Magic System et Papa Asalfo nous ont donné quelque chose ».
La béninoise Zeynab était elle aussi sur la scène du FEMUA.
Cette initiative, vraiment, je ne cesserai jamais d'applaudir Gaou Productions et d'encourager fortement Asalfo et ses collègues parce que ce qu'ils font, c'est fort. On les a vus, on sait d'où ils viennent. Et ce sont des gens qui sont en train de tendre la main à la nouvelle génération et même à l'ancienne. Ils donnent une vitrine importante.
C'est sans doute l'artiste le plus attendu à ce festival. Il est venu, il n'a pas déçu. Il a simplement mis du baume au cœur des mélomanes. Le rappeur français Soprano.
On est super content. On a vu des jeunes avec le sourire. Et papa a chanté, Yoro, Inaya, les parents qui chantaient aussi. On est super content. Et j'espère que le public a vraiment kiffé.
Au centre de cette 11e édition du FEMUA, la question de l'immigration clandestine. Un défi pour la Côte d'Ivoire et plusieurs pays du continent. Le Kwa Kanza.
C'est tellement triste. Normalement, quand un humain voyage, qu'il soit blanc, jaune, rouge, c'est un moment d'aventure intense et immense. Sauf que nos enfants, quand ils voyagent, ça devient un voyage macabre. Il est grand temps que tous ensemble, on s'assied et se demandons que doit-on faire pour nos enfants.
Lokua Kanza, Soprano, Sidiki Diabaté, Yemi Alade, Bila Kakura ou encore Luxon Pado sur la scène du FEMUA. Le public n'en demandait pas tant.
Vraiment un grand plaisir de se retrouver ici. Hein, la 11e édition, vraiment, il n'y a pas quelque chose de plus mieux que ça, quoi.
Créé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA est devenu au fil des ans un événement culturel majeur en Côte d'Ivoire. Un événement qui permet surtout à la jeunesse de Marcoury de voir chaque année sur scène et gratuitement des artistes de renommée mondiale. Une manière pour Magic System de manifester sa reconnaissance à ce quartier qu'il a vu naître. Rideau sur la 11e édition, rendez-vous en 2019 pour un autre FEMUA. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
« fake news ou en français les fausses nouvelles. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue dernièrement, surtout si vous suivez par exemple le président Donald Trump sur Twitter ou d'autres politiciens. Aux États-Unis et à travers le monde, des lycéens tentent de comprendre le concept en apprenant les bases du lexique des médias. Un récit d'Abdourahman Dia.
Nous sommes au lycée Wakefield d'Arlington, en Virginie. Ces lycéens apprennent à identifier les fake news. Le professeur de sciences sociales, Patricia Hunt, offre un cours de digital appelé Checkology. Elle en profite pour donner à ses étudiants des exemples concrets d'informations qui sont soit factuelles, soit mal informées, soit tout simplement fausses. Prenons l'exemple de la récente fusillade de Parkland en Floride, dans laquelle 17 personnes ont été tuées. Elle a demandé aux élèves d'examiner toutes les rumeurs qui ont circulé après l'incident et de lui dire si elles sont vraies ou pas.
On bombarde les élèves d'informations. On les bombarde aussi de soi-disant nouvelles, de fake news, de rumeurs devenues virales ou trompeuses. J'espère qu'à travers mes leçons, ils vont pouvoir discerner le journalisme de qualité et des informations non équilibrées, fausses, de la propagande ou de quelque chose de ce genre.
Les études montrent que les adolescents s'informent principalement à travers les réseaux sociaux et ils ont plus tendance à croire les informations qu'ils reçoivent de leurs amis.
Alan Miller est le fondateur de l'ONG News Literacy Project.
J'ai vraiment été frappé par le fait que les élèves ont tendance à croire que toutes les sources d'information se valent. Si vous êtes plus jeune, vous pensez qu'une info est sur Internet parce qu'elle a été vérifiée et donc vraie. Ils sont plus enclins à y croire et à la partager. Lorsqu'ils arrivent au lycée, ils deviennent un peu plus cyniques et pourraient penser que toutes les informations sont biaisées et qu'il y a toujours un agenda derrière. Ce qui manque à tout ça, c'est la pensée critique.
Cette étudiante va désormais porter un regard beaucoup plus critique envers les réseaux sociaux.
Je sais maintenant faire la différence entre le vrai et le faux et faire plus attention.
Alan Miller, de l'ONG News Literacy Project.
Ce que nous voulons des élèves, c'est qu'ils puissent évaluer la crédibilité des informations qui circulent sur Internet.
Et cela semble marcher.
J'ai appris à vérifier les informations et les moyens de déceler des fausses informations à travers les titres, en vérifiant s'il y a des éditeurs.
Des milliers d'enseignants utilisent le cours digital Checkology aux États-Unis et dans 90 autres pays, permettant ainsi aux élèves de démêler le vrai du faux dans un océan d'informations.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, êtes-vous conscient du danger des réseaux sociaux sur Internet? Exemple Facebook, WhatsApp, Snapchat et j'en passe. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731 ou 001 703 350 50 37 31, ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnol à mise en onde, Wojtek Zoniak à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Restez à l'écoute et excellente suite de programme.
Le monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.